Ecclésiaste, alors pour ceux qui sont pas habitués, qui sont nouveaux avec dans le Seigneur, eh bien, vous avez les psaumes, proverbes et l'Ecclésiaste. Psaumes, proverbes, Ecclésiaste, pour vous aider. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 15. Ça va, Régine, en arrière, oui? Toujours à votre service. Partir du verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, oui, la liaison, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, en toute humilité, te demandant, Seigneur, ton aide, t'implorant de parler à nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être affermis dans notre foi, mais aussi pour que dans l'exercice de cette foi, Seigneur, nous puissions vraiment manifester la présence de Jésus en chacun de nous, auprès de nos frères et sœurs, mais surtout auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, qu'en sortant de ce lieu ce matin, nous ayons la certitude que non seulement tu nous auras visités tous et chacun, mais que tu nous auras aussi parlé à travers ta parole, qui est esprit vérité, et aussi à travers celui qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est en son nom que nous te prions, Père. Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » Eh bien, s'il y a bien un livre déprimant dans toute la Bible, c'est bien celui de l'Ecclésiaste. Et pourtant, il n'a pas été écrit par n'importe qui. Il a été écrit par un homme qui a eu plus de 700 maîtresses et 300 femmes. Un homme qui a reçu la sagesse de Dieu. Une sagesse que personne, aucun autre homme sur la terre après lui, va recevoir. Un homme qui a été l'un des plus grands rois en Israël. Et là, eh bien, dans le livre de l'Ecclésiaste, il vous partage sa vie. Il vous partage son expérience de vie. Et là, vous lisez, et puis vous vous dites, il était sûrement au bord du suicide quand il a écrit ça, quoi, ça n'a pas de sens, quoi. Mais pourquoi Dieu a permis que le livre de l'Ecclésiaste apparaisse dans les Écritures? Parce que ce livre décrit la recherche de l'homme naturel pour obtenir le bonheur suprême sur cette terre. Et malheureusement, le fruit de cette recherche le conduit finalement à une amère déception et à dire le cœur brisé, vanité des vanités, tout n'est que vanité. En français courant, on pourrait dire, ben, tout est absurde et inutile, tout est dérisoire. Vous dites, c'est vrai ou c'est pas ça? Hein? Oui? Vous dites, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les plus vieux, ils font des signes de tête. Les plus jeunes sont pas encore sûrs, hein? Mais quand on arrive à la fin de notre vie, puis on regarde ce pour quoi on a travaillé, souvent la santé qu'on a sacrifiée parce qu'on n'a pas été suffisamment sage, on a brûlé la chandelle par les deux bouts dans le travail, et puis qu'on regarde nos enfants comment ça fonctionne, qu'on a des enfants qui ont soit divorcé, qui ont abandonné le Seigneur, bien on peut dire comme le psalmiste, on peut dire comme l'Ecclésiaste, eh bien tout est absurde et inutile, tout est dérisoire, parce que les biens que j'ai gagnés, l'argent que j'ai accumulé, je vais donner ça à des enfants qui n'auront pas consacré une seule heure de leur vie pour ramasser ce que j'ai eu. Et je ne sais même pas s'ils vont le dépenser de façon sage. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit à un moment donné dans sa parole, dans son livre. Hein. Ouais. Et il dit, ça, c'est vraiment absurde. Ça, c'est vraiment inutile ce que j'ai fait finalement. J'ai travaillé, j'ai sué, je me suis consacré. Mes enfants sont déchirés entre eux. Et je ne sais même pas s'ils dilapideront pas ça en des plaisirs de toutes sortes. S'ils dilapideront pas mes biens en plaisirs de toutes sortes. Parce qu'ils sont pas attachés à ça. Ils n'ont pas consacré une seule heure pour ramasser ce que moi j'ai ramassé. Et là, ben, il fait un survol de sa vie. Il se dit, tout est vanité, rien que vanité. La Bible parle d'une cité qui est offerte à tous ceux qui marchent par la foi et pour laquelle le cœur de chaque chrétien aspire. Une cité dont les enfants de Dieu, de toutes les époques, ont gardé les yeux fixés. Il est écrit qu'Abraham, le père de tous les croyants, attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On en avait parlé la semaine passée dans Hébreux chapitre 11, verset 10. Dieu est l'architecte et le constructeur de cette cité qui attend tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Amen. Ouais. N'est-ce pas Jésus qui a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures et que si cela n'était pas vrai, il ne nous l'aurait pas dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans le livre de l'Apocalypse, la description que Jean fait de cette cité est au-delà de tout ce que notre pauvre intelligence limitée peut imaginer. Il décrit la cité, vous voyez, c'est le temps des élections, hein? Vous savez comment c'est le temps des élections? Un indice, là, visible. On répare les routes. On met du bitume. Hein? On met du bitume un peu partout. Eh bien, je peux vous dire une chose, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de bitume. Il n'y aura pas de réparation. Parce que c'est Dieu qui va l'avoir construit. C'est une cité qui n'aura pas été faite de main d'homme. Et regardez la description que Jean fait de la cité de la Nouvelle Jérusalem. Il décrit la cité comme étant en or pur, semblable à du verre pur. Les portes sont des perles, les murs sont construits en jaspe, et la place de la ville est d'or pur comme du verre transparent. Dans Apocalypse, chapitre 22. Essayez d'imaginer. Il y a des gens qui passent leur vie à faire l'élevage des perles. C'est pas plus gros qu'un 5 cents, hein? Mais vous imaginez une porte. Une porte qui va représenter une perle, c'est incroyable, hein? Incroyable, quoi. Mais c'est des perles qui sont fabriquées par Dieu. C'est lui qui va en avoir fait l'élevage. Et il est en train de nous préparer une maison extraordinaire là-haut dans le ciel. Et je vous répète ce que je vous ai dit la semaine passée. Si vous voulez persévérer dans votre foi, gardez vos yeux fixés sur cette cité que Dieu est en train de vous préparer. Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ qui revient bientôt chercher les siens. Sinon, vous allez plonger, vous allez finir par agir comme les gens du monde. Parce que ça fait partie du combat spirituel. Le diable est là, non pas pour nous voler ce qu'on a reçu de Jésus-Christ, mais nous faire perdre de vue ce qui nous attend. Et finalement, si on perd de vue ce qui nous attend en Jésus-Christ, on finit par avoir les mêmes ambitions que les gens du monde. On perd notre joie, on perd notre paix. Et finalement, on est comme des poules sans tête, on ne sait pas tellement où on s'en va. C'est pas vrai ce que je dis? Et tout le monde, hein? Je vous vise pas moi, je me parle à moi. Hein. Tout le monde, on peut être victime de ces pièges du malin. N'est-ce pas terrible de manquer le chemin qui mène à cette cité? Nous vivons dans ce monde pendant 50, 60, 70 ans, et pour certains, des privilégiés au-delà de 80 ans. Mais quelle tragédie! C'est après si peu de temps passé sur la terre, nous nous retrouvons perdus pour l'éternité. Moi, je suis rendu à 63 ans, il y a 20 ans. Quand j'avais 18 ans, je regardais les gars de 63 ans, je me disais, ils sont donc, c'est des vieillards, quoi. C'est des vieillards. Je me trouve pas si vieux que ça, finalement. Et même 80, je commence à les trouver encore passablement jeunes. Tout ça pour dire que je me souviens, à 18 ans, je me suis dit, je rentrais sur le marché du travail, je me suis dit, il me reste 47 ans à vivre pour toucher ma pension. Là, je me dis, dans 2 ans, en principe, si je veux l'apprendre, je pourrais l'apprendre. Et je dois vous dire que le temps a filé une vive allure, quoi. Plus tu vieillis, plus les années se... Il me semble que quand j'allais à l'école, 2 mois de vacances, ça me donnait, j'avais l'impression que c'était 1 an. Et quand tu commences le marché du travail, puis on te donne 2 semaines de congé, tu dis, ah, là, on regrette l'école, hein? Pendant qu'on était à l'école, on veut aller travailler, on veut abandonner l'école. Puis quand on travaille, on se dit, ah, j'aimerais donc retourner à l'école. J'étais si bien, quoi. Mes parents me faisaient vivre, j'avais une maison, j'avais un toit, ils m'habillaient, ils me nourrissaient. J'avais 2 mois de vacances par été, je faisais ce que je voulais. Hey, la vie est courte, la vie est courte. Et dans le livre d'Ecclésiaste, ici, Salomon utilise une image saisissante. Il imagine un habitant de la campagne en route vers une cité, désirant peut-être se rendre à Jérusalem ou vers d'autres villes qu'il aimerait voir. Mais cet homme tente de trouver son chemin non seulement sans aucun poteau indicateur pour le diriger, mais sans aucune information digne de foi pour lui dire quel chemin il devrait prendre. Et il va essayer dans un premier temps de prendre un chemin puis un autre pour être déçu à chaque fois, jusqu'à ce que finalement fatigué, il se jette complètement par terre en disant « Je tourne en rond, j'y arrive pas, je peux pas trouver le chemin. » Et frères et sœurs, si nous pensons à cette cité comme étant celle qui se trouve au ciel ou à cette nouvelle Jérusalem céleste, nous pouvons effectivement voir jusqu'à quel point les paroles de Salomon s'adressent à quiconque habite sur cette terre. Lorsque vous demandez aux gens qu'ils vous parlent de l'espérance qu'ils ont d'aller au ciel, eh bien, ils vous répondront sans trop être sûrs. J'ai vécu ça cet été. « Oh, il n'y a pas de problème, je crois que je vais aller au paradis lorsque je mourrai. » Ou « J'espère que je trouverai le chemin qui mène au ciel avant de mourir. » Ou encore, « J'espère que Dieu me laissera entrer par la grande porte. » Eh bien, j'espère que ce matin, vous espérez pas, mais que vous avez la certitude de savoir où vous allez, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est vrai, hein? Oui. Notre espérance, elle est dans notre assurance, quoi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi. C'est quoi la foi? C'est une ferme? Voilà. Oui. Ou encore, j'espère que Dieu... Oui, si vous leur demandez sur quoi ils s'appuient pour dire qu'ils marchent sur le chemin qui mène au ciel, vous allez découvrir qu'ils en sont incapables. Il est courant d'entendre des gens dire, je pense que tout finira par s'arranger, qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel, et même si les gens pensent différemment, nous allons tous nous retrouver au même endroit, parce que je pense que tous les chemins mènent au ciel. Pourtant, nous savons que ce n'est pas logique de penser ainsi. Et si ce principe ne fonctionne pas dans le monde, pour quelle raison devrions-nous croire qu'il va fonctionner lorsque nous arriverons dans l'autre monde? Il ne vous est pas possible de penser que si vous prenez un train qui va vers le nord, vous allez débarquer quelque part dans le sud. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, je ne voulais pas vous le raconter, mais je vais vous le raconter. Cet été, au mois de mai, je suis allé donner un séminaire en Alsace. Et j'ai dû prendre le train de Liège, qui me conduisait d'abord au Luxembourg, après à Nancy, et après ça, à Wanzligen. Et en prenant, j'étais assis dans le train, tout à coup, je vois une dame qui rentre avec elle tenait par un doigt une cage avec un perroquet dedans, puis des colis dans les autres, des paquets dans les autres doigts. Elle essayait de se trouver une place. Et finalement, eh bien, c'est assise, elle a déposé ses paquets sur le siège réservé à un passager. Et elle était bien installée lorsque le contrôleur est arrivé. Et lui a demandé à tour de rôle aux passagers de leur montrer leur billet. Et là, la vieille dame, eh bien, elle lui a présenté son billet. Le contrôleur, en regardant son billet, lui a dit, « Mais madame, vous n'êtes pas dans le bon train. » Elle dit, « Votre billet est bon pour Bruxelles et vous êtes en train d'aller au Luxembourg. Vous êtes dans le train qui s'en va au Luxembourg. » « Alors, vous n'avez pas besoin de me dire ça, » répondit-elle. Juste avant de monter, j'ai demandé à un homme sur le quai si c'était bien le train qui allait à Bruxelles. Et il m'a répondu que c'était celui-ci. « Eh bien, » dit le contrôleur à la vieille dame, « Moi, je suis désolé, mais quelqu'un vous a transmis une mauvaise information, car ce train va à Bruxelles. »« Je ne vous crois pas, » dit-elle. « J'ai acheté ce billet de bonne foi et j'ai pris le train qu'on m'a dit de prendre. »« Pardonnez-moi, » répliqua le contrôleur, « mais je travaille depuis des années sur cette ligne et ce train va au Luxembourg et non pas à Bruxelles. » « Si vous voulez aller à Bruxelles, vous devez descendre et prendre un autre train. » Finalement, alors que le train approchait d'une gare, elle récupéra sa cage, ses paquets, en disant que c'était une insulte, qu'elle ferait un rapport à la compagnie de chemin de fer pour que le contrôleur soit congédié, parce qu'il l'avait dissuadé de voyager dans ce train. Elle a quitté le train tandis que le reste des passagers souriaient, même s'ils étaient désolés pour elle. Frères et sœurs, il ne vous est pas possible de penser que si vous prenez un train qui va vers le nord, vous allez finalement arriver par débarquer dans le sud. Tout comme il n'est pas possible de penser que si vous êtes sur le chemin qui mène au jugement dernier, vous allez entrer au ciel. Combien y a-t-il de gens qui se contentent de vivre sans se demander où ils vont aller après la mort? C'est épouvantable, ça. C'est terrifiant, quoi. Les animaux vivent comme ça. Mon chien chez nous, il ne se préoccupe pas du lendemain, ni mes chats. Les animaux vivent au jour le jour, sans même penser où ils vont aller passer l'éternité. C'est le cadet de leurs soucis. Et l'être humain, c'est le seul que Dieu a donné un esprit pour entrer en contact avec Dieu qui est esprit. Et Dieu, dans sa parole, partout nous dit, « Moi, je veux que tu passes l'éternité avec moi. Moi, j'ai choisi de te faire une place dans mon royaume pour qu'on puisse passer l'éternité ensemble. » Et il y a des gens qui vivent sur cette terre sans jamais, jamais se poser la question où ils vont passer l'éternité. Quelle folie monumentale alors que la parole de Dieu a tracé si clairement le seul bon chemin à suivre. Et ce matin, j'aimerais examiner certains chemins que les gens prennent en pensant qu'ils les conduiront au ciel. Alors, c'est une réflexion que je vous fais. On va partager ça ensemble. Le premier chemin, c'est le chemin de la loi. C'est un chemin qui est dur, pavé de pierres, et plusieurs s'imaginent que ce chemin va les conduire au ciel. Et lorsque vous circulez sur ce chemin, vous avez l'impression d'entendre les coups de tonnerre et le son de la trompette que les Israélites entendaient sur le mont Sinaï. Et vous pouvez presque entendre des paroles « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Si vous êtes sur ce chemin ce matin, vous vous dites peut-être « Je fais de mon mieux, j'essaie de garder les commandements de Dieu, de cette façon je vais sûrement finir par entrer au ciel ». Si c'est votre cas, méfiez-vous, car le chemin de la loi vous conduira finalement à un endroit de malédiction, car il est écrit « Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous ». Il est aussi écrit « Maudit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ». Aucun homme n'a jamais pu être justifié pour avoir accompli les œuvres de la loi, et personne ne le pourra jamais. Personne. Tourne avec moi dans Luc. Donnez un exemple biblique. Concernant le chemin de la loi. Évangile selon Luc, chapitre 1. Zacharie et Élisabeth. Ah, s'il y a bien des gens qui avaient réussi à gagner leur ciel, c'était bien Zacharie et Élisabeth. Regardez, verset 6. « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'en avaient pas raté aucun. Et pourtant, en dehors de Jésus-Christ, ils étaient perdus. » Ils ont observé parfaitement toute la loi. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est sur le chemin de la loi ce matin, eh bien, je dois vous dire que le chemin de la loi ne vous conduira jamais dans la Nouvelle Jérusalem. Deuxième chemin, le chemin de la réforme. Certains disent, je vais essayer le chemin qui me permet de me réformer, c'est-à-dire de revenir à une vie plus sage. Si vous êtes sur ce chemin ce matin, vous vous dites peut-être, il est vrai que j'ai péché, que je suis coupable, d'avoir désobéi à la loi de Dieu. Mais je vais tourner la page. Je vais abandonner mes anciennes habitudes et je vais commencer désormais à tout faire pour plaire à Dieu. Je finirai sûrement par arriver au ciel. Mon ami, ce chemin vous conduira éventuellement à connaître une grande déception, car il est écrit que ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel. Même si vous changez votre façon de vivre aujourd'hui, même si vous tourniez la page pour en commencer une nouvelle, sans jamais faire une autre tache noire dans votre livre. Les vieilles pages contenant tous les péchés que vous avez commis dans le passé sont toujours là. Et vous serez confronté avec ceux-ci au jour du jugement, à moins que vous trouviez un moyen de les faire disparaître. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5, « Car Dieu ramènera ce que vous avez fait dans le passé. » Même les maisons de crédit fonctionnent selon ce principe, et elles ont parfaitement le droit de le faire. Je ne sais pas si vous avez une carte de Carrefour, une carte Visa de Carrefour. Aujourd'hui, hein, les cartes de crédit, c'est comme des jeux de cartes, quoi. Il faut en recevoir 52 dans votre boîte aux lettres. Et puis, au Canada, en tout cas, on n'a pas besoin de faire des demandes. On les distribue dans les boîtes aux lettres. Donc, il faut réussir à vous faire un jeu de cartes de crédit, tellement qu'on distribue les cartes de crédit chez nous. Alors, vous accumulez de factures et un mois ou deux, puis vous vous dites, plus jamais je vais acheter à crédit, c'est un moyen trop facile, et je risque de prendre l'habitude de m'endetter. Et là, je vais commencer à payer comptant pour tout ce que j'achète. Et là, vous allez rencontrer, on va prendre Carrefour, hein. Bon, M. Carrefour, il n'est pas plus méchant que les autres, mais bon, j'ai une petite carte Visa Carrefour qui ne me coûte rien, donc je vais vous parler de ce que je connais, quoi. Hein? Sinon, je n'ai pas d'autre carte de crédit. Et là, ben, vous allez chez M. Carrefour et vous allez rencontrer la personne qui s'occupe du crédit. Et là, en lui disant que vous avez maintenant pris la décision de tourner la page. Concernant quoi, vous demande-t-elle? Ben, vous lui dites, j'ai réalisé que ce que j'ai acheté à crédit dans votre magasin ces deux derniers mois, eh bien, ça a été une erreur de ma part. Et j'ai pris la décision que désormais, ben, je vais payer comptant. Ah, ben, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, je me réjouis d'entendre cela. Et quand serez-vous en mesure de régler vos anciennes factures? En souffrance. Mais vous n'avez pas bien compris. Je vais payer comptant à partir d'aujourd'hui. Alors, vous n'allez sûrement pas tenir compte des anciennes factures que je vous dois. Que va-t-elle vous répondre? Pensez que M. Carrefour va vous laisser tomber comme ça? Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des affaires de cette façon, monsieur. Vous avez acheté de la marchandise venant de notre magasin et nous nous attendons à ce que vous payiez ce que vous avez pris. Mais si je vous dis que je regrette et que je vous payerai à l'avenir tout ce que j'achèterai, cela devrait vous suffire. Que va-t-elle vous répondre? Elle vous dira, nous sommes heureux de savoir que dorénavant, vous allez payer comptant tout ce que vous achetez. Mais les affaires étant ce qu'elles sont, il est nécessaire que vous remboursiez ce que vous avez pris dans le passé et que vous n'avez toujours pas payé. Frères et sœurs, vous pouvez toujours changer votre façon de vivre. Vous pouvez même tourner la page et en commencer une nouvelle. Mais lorsque vous arriverez à la fin de la route de la réforme, si c'est votre cas, vous vous retrouverez dans un endroit de déception éternelle où vous entendrez la voix du Fils de Dieu disant, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Le chemin de la bonne morale. Il y a un autre chemin qui ressemble à celui-ci, c'est le chemin de la moralité. Sur ce chemin, vous retrouvez beaucoup de gens au-dessus de tout soupçon. Ce sont des gens que nous n'hésiterions pas à recevoir dans nos maisons et avec qui vous allez passer un moment agréable. Ils évitent tout type de mauvais comportement, ils ont un bon témoignage et ils sont fiers de leur bonne conduite et de leur code de valeur. Ils correspondent à ce que le monde appelle, entre guillemets, de bonnes personnes. Mais il n'y a pas de place dans leur cœur pour le Seigneur Jésus. Et pourtant, la parole déclare qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, car sur le ciel, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si vous marchez sur ce chemin ce matin, vous devriez savoir que si la morale pouvait vous sauver, si une bonne conduite pouvait vous faire entrer au ciel, Jésus-Christ ne serait jamais mort sur la croix à Golgotha. Dans le jardin de Gethsémané, il a prié ainsi, « Père, si tu voulais, si c'était possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. S'il y avait un autre moyen de sauver des pécheurs en dehors du sacrifice qu'il a accompli pour chacun de nous, Dieu aurait tout fait pour nous le faire connaître, ça vous pouvez en être certain. Un autre chemin qu'on peut utiliser, c'est le chemin des pharisiens. Il est juste à côté de celui du chemin de la moralité. C'est le chemin où les gens qui circulent sur ce chemin, c'est un chemin où les gens se croient justes. Sur ce chemin, vous retrouvez les scribes et les pharisiens. Et beaucoup de gens fréquentant des églises, ils n'ont jamais rien eu à se reprocher. Permettez-moi de vous faire entendre comment ils prient. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Je jeûne deux fois par jour, deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. S'il y a bien quelqu'un qui mérite le ciel, c'est bien moi. Entendez cette déclaration solennelle de la parole de Dieu. Votre justice est comme un vêtement souillé. Et l'expression « vêtement souillé » ici, dans le texte hébreu, ne signifie pas des vêtements en lambeaux qui ont été contaminés par la poussière des rues. C'est plutôt une expression qui fait référence aux robes salies et rendues impures par la corruption qui provenait de l'intérieur, qui suintait à travers les plaies des lépreux. Ça vous donne une idée quand le Seigneur dit « Votre justice, pour moi, c'est comme un vêtement souillé ». Ça fait référence aux vêtements que les lépreux portaient et qui étaient contaminés de l'intérieur parce que, avec toutes les croûtes qui tombaient et tout ce qui coulait de leurs blessures, eh bien, ça corrompait, ça souillait leurs vêtements. Si Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, qui était lépreux, vous apportait ses magnifiques vêtements en vous disant « J'aimerais vous les offrir en cadeau », est-ce que vous le remercieriez pour le cadeau qu'il vous présente? Non, bien sûr. Vous lui diriez « Tu peux les garder, ils sont contaminés à l'intérieur par la lèpre ». Voilà à quoi ressemble notre propre justice aux yeux de Dieu parce qu'il provient d'un cœur mauvais et corrompu qui ne peut jamais justifier un pécheur coupable devant Dieu. La fin réservée à ceux qui marchent sur ce chemin, c'est les temps de feu. Le chemin de la routine spirituelle. Il y a un autre chemin qui ressemble à celui-ci, c'est le chemin ritualiste ou, si vous préférez, de la routine spirituelle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui marche sur ce chemin? J'ai dit un jour à une jeune fille, « Je suis heureux de voir que vous êtes venue à cette réunion. Est-ce que vous êtes chrétienne? » « Oui, m'a-t-elle répondu. J'ai fréquenté des églises depuis que je suis toute jeune. Pardonne-moi. » J'ai dit, « Pardonne-moi, mais écoute, je pense que tu n'as pas bien compris ma question. Est-ce que tu es né de nouveau? » Bien sûr, j'ai été baptisé un mois après ma naissance. J'ai dit, « Écoute, je pense que tu n'as pas bien compris ma question. Ce que je voulais dire, à quel moment t'es-tu converti? » « Ah oui, je comprends maintenant ce que vous voulez dire, m'a-t-elle dit. » J'ai été confirmé lorsque j'avais 12 ans. J'ai pris la communion pour la première fois par la suite. Et je me suis fait un devoir d'aller, depuis lors, d'aller aux réunions dimanche après dimanche. « Vous pouvez être certain, monsieur Hudon, que je suis en ordre avec Dieu. » Elle marchait sur le chemin de la routine spirituelle, croyant que c'était le chemin qui mène au ciel, alors que ce chemin la conduisait tout droit au fil des ans vers un abîme sans fin pour l'éternité, où elle découvrira malheureusement trop tard que le baptême ne sauve pas, que les sacrements ne sauvent pas, et que fréquenter une église ne sauve pas. Il n'y a que Jésus qui peut laver les péchés et nous conduire dans la gloire de Dieu. Le chemin de l'illusion, c'est le chemin, il y a un chemin qui est très populaire, c'est un chemin populaire qui est fréquenté par beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le chemin de l'illusion. Les gens qui marchent sur ce chemin sont ceux qui n'ont pas cru le message de l'Évangile et qui ne croient pas aux enseignements de la parole de Dieu lorsqu'elle confirme la divinité de Jésus-Christ, lorsqu'elle parle de son sacrifice accompli sur la croix pour nous sauver. Malheureusement, ce sont des gens qui sont prêts à écouter toutes sortes de bêtises, toutes sortes de sottises qui viennent du monde. Et vous les entendez murmurer, ces gens-là. Dieu est en chacun de nous et nous sommes tous des dieux. Il n'y a rien de mal en soi. C'est nous qui décidons ce qui est bien ou ce qui est mal. Dieu est trop bon. Jamais il va laisser entrer quelqu'un en enfer. Jamais il va envoyer quelqu'un en enfer. Les gens se font eux-mêmes des illusions, fermant leurs yeux sur les réalités de la vie. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le chemin de l'illusion conduit directement en enfer et les gens qui marchent sur ce chemin se réveilleront pour découvrir que le péché est une réalité, que la mort est une réalité, que le ciel est une réalité, qu'ils sont passés à côté, et que l'enfer est une réalité, et que ce sera leur lieu de résidence pour l'éternité. Quelle chose terrible, frères et sœurs, de se détourner de Dieu et de croire dans les fables inventées de toutes pièces par les hommes pour égarer les gens qui pensent que ces fausses vérités conduisent directement au ciel, alors que finalement, ils marchent dans la direction opposée. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? » Et finalement, un dernier chemin, c'est le chemin du modernisme. C'est un chemin où on retrouve les intellectuels sur ce chemin. Je pense entre autres aux étudiants d'université, ceux qui fréquentent l'enseignement supérieur. C'est un chemin où on colporte toutes sortes d'idées nouvelles sur ce chemin parce que ceux qui le fréquentent sont ouverts et réceptifs à accepter, à apprendre les soi-disant découvertes faites par ce monde. Ils sont trop orgueilleux pour accepter ce que le Seigneur dit, mais ils s'inclinent devant la science, devant la pensée moderne, devant la philosophie et toutes les différentes théories qui détournent les gens de Dieu. Même si la parole de Dieu répond à chaque question, le penseur moderne se détourne de tout cela et dit, « Non, je préfère continuer à me poser des questions, à vivre dans l'incertitude, plutôt que de faire face au problème de Jésus-Christ. » Pourtant, frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas un problème. Il est la solution à chaque problème qui concerne la vie, la mort et l'éternité. Trouvez-moi avec moi dans Jean chapitre 4. On va terminer avec ça. Jean chapitre 4, verset 25. Ah ben si, dans Jean chapitre 4, verset 25, s'il y a quelqu'un qui n'était pas digne d'entrer au ciel, ça c'est bien la femme qui est dans chapitre 4, verset 25. Heureusement que Dieu ne regarde pas à la quantité de péchés qu'on a fait. Heureusement que Dieu veut que tous parviennent à la repentance, que Dieu veut que tous parviennent au salut. Et heureusement qu'elle a rencontré un jour Jésus-Christ. Et j'espère que pour chacun de vous ici ce matin, que vous avez tous un jour aussi rencontré Jésus-Christ. C'est une pauvre femme qui est au puits de Sichar, à verset 5. Jésus passe, il veut se rendre, retourner en Galilée, Et là, il décide de passer par la Samarie. Et là, il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, où se trouvait un puits. Et là, au puits, il va rencontrer une dame, une femme. Hein, verset 9, on nous dit la femme samaritaine. Une femme qui est surprise qu'un homme lui parle, c'est l'heure du midi, alors qu'elle vient chercher de l'eau, à l'heure la plus chaude de la journée. Elle vient chercher de l'eau. Et elle dit, est-ce que j'ai mis 4:25? Elle parle avec lui, et elle dit au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Imaginez cette femme, toutes les questions qu'elle devait se poser. « Si seulement je pouvais voir le Messie, il répondrait à toutes les questions que je me pose. Il résoudrait peut-être tous mes problèmes. » Et calmement, gentiment et avec sincérité de cœur, Jésus la regarde et lui dit, verset 26, « Je ne suis moi qui te parle. » Elle va jeter un long regard sur cet homme qui se trouve devant elle. Et en un instant, elle trouve la réponse à toutes ses questions. Frères et sœurs, je sais qu'on vit dans un monde où la Bible est contestée. Même dans les églises qui se disent chrétiennes. Même dans les églises qui se disent chrétiennes, on dit que c'est un livre sacré parmi d'autres. Et si vous êtes né de nouveau, la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, elle est infaillible et la Bible, elle se suffit en elle-même. Ça, c'est la seule façon de vous amener à marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle jusqu'à ce que Christ vous rappelle à lui. La Bible, elle est suffisante à elle-même, elle se suffit à elle-même. Vous avez un problème, elle a la solution à un problème. Vous avez des questions, elle a la réponse à vos questions. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, le problème, il est de notre côté. Il faut l'ouvrir, la Bible, pour trouver les réponses à nos questions. Il faut l'ouvrir, la Bible, pour avoir les solutions que Dieu nous donne, pour vivre en nouveauté de vie, et finalement arriver un jour à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, qu'on va étudier, à l'étude biblique bientôt, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions comme Jésus-Christ a vécu. Hey, c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. Mais si Dieu nous dit, si c'est la volonté de Dieu, c'est parce qu'on peut y arriver. Vous dites amen à ça? Ouais. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Après avoir accepté Jésus-Christ, ça c'est la prière qu'on devrait avoir tous dans nos cœurs. Seigneur, moi, je veux venir à toi. Je viens de venir à toi. Maintenant, je renonce à toutes mes ambitions personnelles. Seigneur, je vais porter ma croix, c'est-à-dire je suis prêt à souffrir en tant que chrétien, affiché que je suis un chrétien de nouveau. Et je suis prêt à te suivre. Ça veut dire quoi, suivre Jésus-Christ? Ça veut dire marcher dans ses pas, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Le chantant cantique tantôt, hein, « Je t'aime », et ainsi de suite. Et Jésus dit, « Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. » Il n'y a pas d'hypocrisie avec le Seigneur. « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Le mot « garder » dans le grec est synonyme d'obéir, c'est celui qui obéit. Le problème, je vais vous dire, encore une fois, il n'est pas du côté de Dieu. Et c'est donc difficile de laisser tomber un péché qu'on aime, et qu'on pense qu'on est seul à connaître. Et que c'est pas facile de le laisser tomber. En vieillissant, après 25 ans, 27 ans de vie chrétienne, je m'aperçois qu'une des, la principale raison qui empêche les gens de venir à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne veulent pas renoncer à un péché. La principale raison qui empêche certaines personnes, certains chrétiens de vivre comme Christ nous demande de vivre, c'est qu'ils ne veulent pas laisser tomber un péché auquel ils prennent encore plaisir et qui attriste tellement le Saint-Esprit de Dieu. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible que je puisse plus pécher. C'est pas ce que la Bible dit, mais par contre, la Bible nous dit que si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Et ça fait partie de l'amour de Dieu. On a un Dieu qui n'est pas rancunier. On n'a pas un Dieu qui est rendu, qui est trop vieux, puis qui ne voit plus rien de ce qui se passe, quoi. Avec les années, c'est pas comme avec Isaac, dont la vue a baissé en vieillissant, quoi. Dieu voit aussi clair qu'il voyait. Isaïe, chapitre 59, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et regardez ce qu'il dit maintenant. L'obstacle. Je suis content de ne pas m'appeler Isaïe aujourd'hui parce que vous me lanceriez des roches. Mais regardez ce qu'il dit. Ça ne doit pas être facile pour Isaïe de prophétiser ça, de proclamer ça devant un peuple qui vient dans le péché. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, je te prie, ça fait des années, ça fait des mois, je te prie. Seigneur, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Quelle est la condition de ton cœur ce matin devant le Seigneur, mon frère et ma sœur? Tu veux que non seulement Dieu entende tes prières, mais que Dieu les écoute, que Dieu les exauce. Quelle est la condition de ton cœur ce matin? Parce que la volonté de Dieu, c'est d'exaucer tes prières. Parce que Dieu agit dans la vie des croyants uniquement en fonction des prières qu'on lui adresse. Uniquement. Si on n'a pas de vie de prière, on ne peut pas s'attendre à recevoir de Dieu. Parce qu'on reçoit de Dieu uniquement en fonction des prières qu'on lui adresse. Mais le Seigneur, il dit, hey, tu ne peux pas savoir ce que j'ai tout en réserve pour toi, mais je dois retenir, je ne peux pas te le donner. Parce que tes péchés m'empêchent d'écouter ta prière. Tes péchés m'empêchent d'exaucer ta prière. Vous savez pourquoi on pêche et qu'on continue souvent à pécher? Parce que le diable a réussi à nous faire arrêter uniquement sur le plaisir que le péché nous apporte, jamais sur les conséquences. Et les conséquences, elles sont désastreuses. Vous pensez que le diable, dans le jardin d'Éden, quand il a rencontré Ève, hein, qui a fait des belles caresses, il dit, Ève, Dieu a dit ça, elle ne va pas avec Dieu. Il est rangé dans ce temps-ci. Non, écoute, si tu manges, si tu prends du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève, tu vas te passer de Dieu. Et je vais te dire plus que ça. Tu vas être encore plus heureux sans Dieu qu'avec Dieu. Pense-y, Ève. Dieu ne veut pas que tu sois plus heureuse sans lui qu'avec lui. Non. Il te retient, Dieu. Non. Il veut te limiter dans ton bonheur, Dieu. Hey, mais pense-y, le jour où tu vas en manger, tu vas être plus heureuse, plus intelligente que tu peux l'être maintenant. Parce que Dieu limite aussi ton intelligence. Dieu limite aussi ta vision des choses. Pense-y, Ève. Si tu y goûtes, tout va t'être permis. Ouais. Et s'il avait montré toutes les conséquences, je ne pense pas qu'elle aurait péché. S'il avait montré qu'il y aurait une première guerre mondiale dans le monde, une deuxième, qu'il y aurait des guerres de religion, toute cette liste de meurtres depuis son premier péché jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui sont abusés, les femmes qui sont battues, s'il lui avait montré ça, voilà les conséquences si tu tombes. Ben non, hein. Non. Il a voilé la face. Il a montré le plaisir qu'elle pouvait en retirer. Un faux plaisir. Parce que quand on pêche, on perd notre communion avec Dieu. Surtout si on est né de nouveau. Nous qui vivons dans la lumière, on voit les ténèbres qui se placent devant nous et on est triste, on est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à tomber dans les pièges du diable qui dit, garde le plaisir que t'apporte le péché. Pense pas aux conséquences. Garde le plaisir. Qu'est-ce qu'elle va faire, la femme, au puits de Sichar? Elle va laisser là sa cruche. Elle s'en va dans la ville. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point Dieu fait homme, en d'autres mots? Ce jour-là, Christ a répondu à son problème. Elle avait eu combien de femmes? Combien de maris, cette femme-là? Et en plus, elle vivait avec un gars. On appelle ça du concubinage aujourd'hui. Elle vivait avec un gars qui n'était pas son mari. Heureusement, Jésus n'a pas pointé ses péchés, hein? Non. Jésus regarde au cœur. Et il a dit, si cette femme-là a eu 5 maris, combien elle doit avoir soif d'amour, cette femme-là? Combien elle a essayé de trouver l'amour à travers chacun de ses hommes? Ils n'ont jamais été capables de la combler. Et l'amour qu'elle cherche, c'est moi seul qui peux lui donner. Ce jour-là, Jésus a répondu à tous ses besoins. Parce qu'on était créé pour aimer et être aimé. Et s'il y en manque un des deux, on est les plus malheureux de la terre. Si vous n'êtes pas capable d'aimer ce matin, votre frère, qui appartient à Jésus-Christ, avec qui vous êtes appelé à passer l'éternité, vous faites partie des plus malheureux des hommes. Et si vous êtes convaincu que Dieu ne vous aime pas ce matin, vous faites aussi partie de ceux qui sont les plus malheureux des hommes. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, parce qu'il ne croit pas, il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement est, étant, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous dit Jean, chapitre 3, versets 13 à 18. Ils n'ont pas accepté la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens refusent la croix parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber un péché à lequel ils pensent trouver du plaisir, mais dans lequel ils sont esclaves. Esclaves. Et ils ont besoin d'une délivrance. Ce matin, mon frère et ma soeur, je ne peux pas revenir dans ton cœur. Peut-être que tu es esclave d'un péché. Moi, je ne peux pas t'en délivrer. Et je t'invite à venir à la croix. Ça peut être le péché de jalousie. Ça peut être un péché d'orgueil. Ça peut être un péché... Tu connais ton péché si tel est ton cas ce matin. Viens à la croix de Jésus-Christ. Il est encore capable de te délivrer. Maintenant, comme il l'a fait il y a 2000 ans et depuis 2000 ans, comme il l'a fait à travers tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Tous ces différents chemins que nous avons examinés sont des chemins qui semblent droits pour plusieurs, mais la fin qui les attend, ce sont les ténèbres profondes. Lorsque Thomas a dit à Jésus, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui a répondu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas ce chemin. Bien, Dieu vous l'offre en Jésus-Christ. Non, mais on va fermer les yeux ce matin. On va terminer ce message par un mot de prière. Peut-être que ce matin, là où vous êtes, à votre place, peut-être que vous n'avez pas l'assurance de marcher sur le bon chemin, peut-être que vous avez vu à travers la liste de chemins qu'on a mentionné ce matin, que vous étiez sur le mauvais chemin. Et à travers cette parole, Dieu vous invite à marcher sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, à marcher avec Jésus-Christ qui va vous accompagner jour après jour. Jésus a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce matin, si vous avez besoin de Christ, si vous ne l'avez jamais connu de manière personnelle, bien, je vous rappelle que lui seul est le chemin qui mène à la cité de Dieu et qu'il dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le temps que vous entendez l'Évangile, peu importe le temps que vous avez refusé d'accepter l'Évangile, Jésus-Christ dit, ce matin, si tu prends une décision de marcher sur ce chemin étroit, eh bien, je ne rejette pas dehors celui qui vient à moi. Voulez-vous commencer une nouvelle vie ce matin? Voulez-vous emprunter un nouveau chemin ce matin? Celui qui se trouve en Jésus-Christ. Si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur ce matin, que vous voulez vous repentir de vos péchés, que vous voulez abandonner tout autre moyen pour gagner votre ciel, et que vous voulez mettre votre confiance en lui seul ce matin, il vous sauvera selon sa parole. Et vous le connaîtrez comme étant le seul chemin qui mène à la Nouvelle Jérusalem.